maintenant que vous êtes bien assis, on va peut-être se lever pour le invoquer l'Esprit Saint. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là parce que sans vous, je n'aurais jamais pris le temps de faire ce petit travail. Et j'ai vraiment demandé à Monseigneur Jean, que je lis depuis des années, de m'éclairer. Et alors le problème aussi avec Monseigneur Jean, c'est qu'il est tellement immense que, c'est un peu comme la Bible, je n'ose pas m'écarter trop du sujet parce que je ne voudrais pas le trahir. Donc voilà. Alors, je vous ai fait quand même fait des notes, heureusement. Le schéma, donc en gros, la technique de la prière, parce qu'en fait, c'est vraiment une technique, c'est un, comment dirais-je, c'est un mot qui paraît un peu paradoxal par rapport à la prière, qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui vient comme ça. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est les deux en même temps. Alors, on posera la question, qui sommes-nous ? Les besoins de l'homme, la prière nourriture et la prière respiration, ce sont les deux grandes prières qui nous habitent. La prière respiration, en fait, elle est pratiquement inscrite à l'intérieur de nous depuis toujours. L'équilibre d'une journée, la prière perpétuelle, et alors cette phrase que, pour laquelle il insiste beaucoup, « Dieu, aime-toi toi-même en moi » et la conclusion. Je parle un peu difficilement parce que j'étais à faune il y a 3 jours. Mais donc ça va quand même mieux. Alors, donc cet exposé s'adresse à vous, c'est-à-dire des personnes qui ont choisi comme maître de leur vie, même si l'élève prend souvent la place du maître, ça on sait bien que c'est notre tentation, l'indéfinissable qui se définit par « je suis celui qui suis ». Aussi, je vous parlerai de cette belle tradition qui est la nôtre, et Monseigneur Jean est pour beaucoup de personnes, et moi en particulier, le témoin privilégié et divinement inspiré de cette richesse inépuisable qui nous est offerte. Il s'est vraiment battu toute sa vie. D'ailleurs, ce livre raconte sa vie qui a été vraiment un combat de tous les jours pour faire vraiment rejaillir cette orthodoxie occidentale. Voilà, Monseigneur Jean est le fondateur de notre Église, lui qui a passé sa vie à faire renaître de ses cendres l'orthodoxie occidentale, qui sommeillait, en gros, parce qu'il y a eu des tentatives entre-temps, depuis le schisme de 1054. Alors, la technique de la prière, donc c'est un livre qui n'est pas très long, que je vous conseille très vivement. Il y a toute une partie d'ailleurs qui est consacrée au Notre Père, donc ce n'est pas très très long. C'est un livre que j'ai vraiment lu depuis des années. Je crois que la première fois que c'était en 92. Il m'a beaucoup nourri et me nourrit toujours au quotidien. Je me suis dit qu'il serait une source d'inspiration pour vous aussi, pour incarner et répondre au mieux à cet appel incessant du divin en nous. Parce que vraiment incessant, oui. Il y a autant de prières différentes qu'il y a de personnes. Mais comme tout ce qui est essentiel, seule l'expérience intérieure peut nous approcher de la prière. Dieu n'est saisissable que par l'expérience intérieure. Ça, c'est très important aussi. Et quand on dit qu'il est essentiel, donc Il y a le mot essence, hein, là-dedans, il y a l'essence pour la voiture, mais il y a l'essence dans le sens, où tout vient de lui, quoi. Tout part de lui et tout retourne vers lui. Alors malheureusement, dans la vie dans laquelle nous gravitons aujourd'hui, elle n'est pas du tout propice à cet élan de prière. Hein. Nous sommes dans l'agitation, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille en premier ? Une des formes de prière les plus exactes, les plus directes, les plus simples, est précisément de ne jamais penser. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais voilà. Mais de toujours parler à Dieu sans chercher de réponse, ça c'est très important. On parle à Dieu, on lui dit ce qui est, mais on n'essaye pas de connaître la réponse. De toute façon, celle qui vient sera toujours différente de celle qu'on attend, et elle viendra toujours au moment où on ne s'y attend pas. Alors, se parler à soi-même, c'est comme le serpent qui mangerait sa queue. C'est-à-dire que vous savez bien comment ça va les penser, on est parti là-dedans, et donc on rumine, et finalement, on ne parvient pas à se détacher de soi pour vraiment se tourner vers lui. Il s'agit de raconter, de se raconter, ou de raconter à Dieu ce qui se passe en soi, sans aucun commentaire. Dire objectivement sans passion. Oui, par exemple, il va très loin, hein, Monseigneur Jean, il va toujours, il donne des exemples très, très marquants. Il dit par exemple, j'ai envie de tuer, de mourir, de prier. Est-ce bien, est-ce mal, suis-je coupable ou innocent, dans le vrai ou dans le faux? Peu importe. Ce qui est important, c'est le mot objectif. Parce qu'il n'y a rien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de plus objectif que le divin. Le divin, c'est vraiment l'objectivité absolue. C'est totalement autre chose que les émotions. Bien sûr que les émotions font partie de nous, mais l'objectivité, c'est vraiment une des caractéristiques divines. Voilà, l'important... Donc, quand vous parlez comme ça, c'est de nous arracher au cercle tragique du moi, de nos sentiments, il en parle justement, et de nos pensées. Cette conversation n'est bonne que dans la sincérité absolue. Petit à petit, la réponse se dégagera et notre état d'âme se sera apaisé et clarifié. Donc, c'est très important... C'est une manière très efficace, qui ne dure jamais très longtemps, bien sûr, parce qu'on est tout le temps, enfin, en tout cas moi, on est tout le temps repris par les pensées, mais c'est très important de se dire qu'on a cette possibilité de toujours retourner vers lui, de lui parler comme on parle à un ami, mais de façon très objective, en disant exactement ce qu'on est, ce qu'on vit au quotidien, dans les petits détails, voilà, je prends mon potage, il est dégueulasse ou il est bon, peu importe. On parle, mais on ne s'étend pas sur ce que l'on dit. On dit les choses tout simplement, mais avec une sincérité absolue. Ça, c'est très important. Parce que la tentation, souvent, c'est de se mentir un peu à soi-même. C'est quelque chose qui est assez subtil et, bon, qui est sans doute beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. Fréquent qu'on ne pense. Alors, notre premier ennemi est le manque de temps, alimenté par une agitation qui nous éloigne de nous-mêmes, et lorsqu'un problème surgit, il nous est très difficile de se retrouver dans un état de prière sincère, à cause justement de notre instabilité. Oui, c'est vrai que c'est très, très difficile de retrouver son équilibre. Dès qu'on est contrarié, qu'il y a du trafic, n'importe quoi, des petites choses. Hein. C'est souvent les petites choses qui finalement prennent une ampleur immense. Cette prière-conversation doit prendre la place de notre nervosité. Écouter de la belle musique élève l'âme. Tout comme fréquenter Dieu nous donne, on le sait bien, le goût du divin. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est doux. Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est très important et on peut toujours se référer à cette prière spontanée, sincère et qui peut surgir à tout moment. C'est quand même une richesse assez incroyable de pouvoir se dire qu'à tout moment, on peut être relié si on le désire. Alors, qui sommes-nous? Ça, c'est une question, je ne prétends pas y répondre, et Mgr Jean non plus, mais en tout cas, il nous donne des pistes. Le propre de notre nature est l'insatisfaction. Lorsque nous nous trouvons confrontés à une difficulté ou une forte contrariété, l'autre devient souvent notre exutoire, celui qu'on rend responsable. C'est un réflexe, je dirais, presque naturel de se dire, bon, s'il y a un problème, ça ne vient pas de moi. Voilà. On se révolte contre toute injustice. Et aujourd'hui, on aurait de bonnes raisons de se révolter. De toute injustice qui nous entoure, et il nous arrive parfois même de rendre Dieu responsable. Et alors, je trouve que c'est très beau ce qu'il dit, au lieu de se dire, je ne comprends peut-être pas ce qui arrive et je ne comprends peut-être pas la bonté de Dieu ni la vraie justice. C'est important de se dire que Dieu voit les choses quand même aussi autrement que nous. Le Christ savait bien que ce problème se poserait à l'humanité et il nous prévient que votre lumière brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient le Père céleste. J'ai mis du temps pour la comprendre, hein. Je ne dis pas que je l'ai comprise, mais c'est une phrase importante, c'est-à-dire, ça c'est Mgr Jean qui ajoute, c'est-à-dire qu'il reconnaît en Dieu la paternité. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il explique un petit peu, nous avons besoin, souvent besoin de voir la bonté des disciples. Quand on voit que quelqu'un est bon, donc, je vais d'abord lire. Nous avons souvent besoin de voir la bonté des disciples pour discerner la bonté ineffable du Maître. La compassion d'un chrétien permet d'accepter plus facilement la miséricorde du Dieu chrétien. Et c'est en ce sens qu'il parle de paternité, c'est-à-dire qu'il est évident que nous, quand nous montrons de la compassion et que nous avons une attitude la moins éloignée possible du divin, que nous prenons ce chemin-là, il est évident qu'à ce moment-là, les personnes, petit à petit, pourront comprendre qu'en nous voyant agir ainsi, eh bien, c'est quelque part quelque chose qui nous est donné. Et donc, ça pourrait éventuellement poser question aux personnes et voilà, et leur donner l'envie d'aller un peu plus loin. C'est quand même une responsabilité aussi. Hein. Alors, le mot-clé est demeurer. D'ailleurs, j'avais fait un jour un article sur le mot demeurer, qui est un très beau mot. Hein. Avec la prière, nous découvrons le va-et-vient de notre salle des pas perdus intérieurs. Je pense à palais de justice. L'essentiel, alors, est de demeurer avec persévérance. S'installer avec patience dans la prière comme dans sa maison. Entrer en son ambiance et y demeurer. Donc là, à la limite, on est même peut-être plus dans le dialogue, ou enfin on ne parle même peut-être plus, c'est peut-être le silence à ce moment-là qui fait qu'on peut vraiment demeurer sans bien comprendre ce qui se passe, mais de sentir en soi vraiment qu'il y a quelque chose de précieux. Et comme on rentre dans sa maison, une prière comme dans sa maison, je trouve que c'est beau. C'est donc un lieu qui est habité et un lieu que l'on connaît et qui est en nous. Dans la contemplation naît le désir d'aimer Dieu. Notre désir de l'aimer vient de lui. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ne croyez pas que nous aimons Dieu. Dieu met en nous ce désir de lui, mais ça vient de lui. En premier, bien sûr. Alors, progressivement, une nouvelle connaissance naîtra en nous. Connaissance qui nous sera donnée par lui seul. L'être qui s'élance dans la prière avec agitation ne peut pas prier. Avant de prier, détends-toi et retrouve le silence. On le dit souvent lors de la liturgie, soyons en silence. Comment passer du remue-ménage des pensées au silence et quel est le chemin pour atteindre cette paix avant la prière? Alors, il donne cinq points. Le premier, c'est de se situer comme spectateur. C'est pas mal ça, parce qu'effectivement, on prend de la distance. Hein, quand on se voit comme spectateur, on se regarde dans le miroir, on regarde le portrait, je ne sais pas moi de qui, d'un farfelu, ça y en a pas mal aujourd'hui. Voilà, et donc on se prend, voilà, comme spectateur. Se parler à la troisième personne, c'est prendre du recul et se dire, bon, ce qui m'arrive, c'est quand même, allez Myriam, c'est pas très grave, quoi, c'est... On en a vu d'autres, voilà, et puis un peu se moquer de soi, mais avec gentillesse. Se parler à la troisième personne, se donner un diminutif ridicule ou solennel. Voilà. Exemple, bon, ridicule, je penserais plutôt à Trump, et solennel, je penserais à De Gaulle. Voilà. Méthode à pratiquer dans les bons comme dans les mauvais moments. Ah, ça, c'est pas mal non plus. Se regarder tel qu'on est. Et alors j'avais noté une petite phrase que j'aime beaucoup qui disait « Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand ». Voilà. Alors donc, ça c'est le premier point, se situer comme spectateur. Alors faire le vide, ça paraît facile, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que stopper les pensées, les désirs, les jugements sur les autres et sur soi. Ça c'est toujours très très important, hein, parce que finalement, la première personne qu'on juge, je parle de mon expérience propre, c'est souvent soi. Et alors, on rumine. Attendez, oui, c'est bon. Alors, il dit cette très belle phrase, Monseigneur Jean, « Fais de toi rien, afin que Dieu fasse de toi l'univers. » C'est magnifique, hein. Ça nous laisse une perspective extraordinaire. Oui. Donc, fais de toi rien afin que Dieu fasse de toi l'univers. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à toutes les phrases, Monseigneur Jean, pratiquement. Et faire de soi rien, c'est pas facile non plus. Hein. Voilà, donc nous sommes appelés vraiment à... Nous avons une surpuissance, comme disait Mandela, hein, à l'univers en nous. Bon, alors, donc, spectateur, on est spectateur, on fait le vide en soi, et puis faire le choix. En face du péché, l'hésitation est l'attitude la plus dangereuse. Se jeter dans la décision comme dans le feu. Bon. Il y a des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, mais mieux vaut prendre une bonne décision, de prendre une décision même si elle est mauvaise, que de ne pas en prendre du tout. Sauf, il y a des cas aussi où on fait un refus de choix, on choisit de ne pas choisir. Par exemple, il donne comme exemple, demain je serai riche, ok. Je serai pauvre, ok. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle beaucoup de ça. Je suis un génie, ok. Je suis un raté, ok. Comme Dieu voudra, j'accepte ce qui est faste ou j'accepte ce qui est néfaste, ce qui est un peu plus difficile. Voilà. Alors, s'accrocher à une idée fixe. Vous voyez, Astérix, même Astérix s'est inspiré de ça. Donc, une prière répétée, prière du cœur par excellence, hein, où un mot de cette prière est s'y tenir. Bertrand Vergeliot aussi insiste beaucoup sur le mot « tenir ». Il dit par exemple « aimer une fois c'est bien, mais tenir ». Voilà, c'est là qu'intervient la persévérance. Ne pas lâcher la prière, même lorsque l'espoir s'éloigne. Continuer et recommencer. Parce que vraiment, il y a des moments où on n'a pas du tout envie de prier. Alors on peut toujours demander au Seigneur de prier pour nous, ça c'est vrai. Mais d'ailleurs il y revient... un peu plus loin. L'Évangile le précise. Le déserteur s'en va à moins 5. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette conduite procurera l'équilibre et enlèvera l'inquiétude. Alors le dernier point, c'est rien ne m'est dû. C'est très très important aussi. M'est dû. Les agitations ont en général comme source la prétention que telle ou telle chose nous est due. Et que si ce n'est pas le cas, on se dit « Comment telle ou telle personne m'a abandonné? Il n'a pas reconnu le bien que je lui fais. » Dieu ne me comprend pas. Ce n'est pas possible autrement. Et la crise est née. Donc, voilà. On est là, on est dans la rancune, on ne comprend pas c'est la réaction des gens. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des réactions qui nous blessent, c'est normal. Et donc, essayez vraiment de se dire, eh bien, voilà, c'est comme ça, je l'accepte, rien ne m'est dû. Même si on m'abandonne, je n'avais pas à attendre que cette personne me donne plus d'affection que je n'attendais ou qu'elle me rejette, c'est comme ça. Ces cinq méthodes, donc, la dernière c'est rien ne m'est dû, sont réunies dans Bienheureux, les pauvres en esprit, car elles permettent le dépouillement. Donc, il insiste beaucoup sur le mot progressivement, au fur et à mesure que je lis, je vois que c'est un mot qui revient souvent. Donc, ne pas se faire violence, hein. Il faut apprendre progressivement à ne pas être touché par le monde des appréciations passionnelles ou autres. C'est vrai que c'est important, mais ça s'apprend. Mais ça prend beaucoup de temps, et souvent on doit repartir, notre premier élan, ce sera effectivement de se sentir blessé, humilié, et voilà. Et ne pas avoir peur de traverser ça et de se dire, voilà, rien ne m'est dû. Ça libère, il n'y a rien à faire, ça libère. Hein. Alors, renoncer à se juger. Vous voyez, il insiste beaucoup aussi sur le jugement par rapport à soi-même. Car c'est là que réside le plus grand danger. Quand notre Seigneur déclare, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, il s'adresse au jugement porté sur notre frère, mais nous sommes aussi notre propre frère. L'accroissement spirituel n'a rien à faire avec le jugement. Donc, on peut être un saint, on peut être un mécréant, peu importe. Dieu agit à sa façon, qui est une façon unique, magnifique, mais qui nous sera toujours quelque part étrangère. Donc, ne croyons pas que nous puissions mériter quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il dit « rien ne m'est dû », c'est aussi dans ce sens-là. Quand je pense à ce que j'ai fait pour la paroisse, et maintenant je ne suis pas récompensée, eh bien non, c'est comme ça. C'est vraiment un chemin difficile. Enfin, ça on le voit bien, Monseigneur Jean, s'il a bien quelqu'un qui a eu un chemin difficile, c'est lui. Parce que vraiment, sa vie montre que tout ce qu'il écrit, il l'a vraiment vécu de l'intérieur. C'est toujours ce qui m'a séduit chez lui d'ailleurs. Alors, donc, je vous disais les cinq méthodes pour demeurer dans la prière.
Tu ne veux pas vite les répéter les
cinq. Oui, donc se situer comme spectateur. Hein. Je suis troisième personne, je suis telle et telle personne. Faire le vide. Donc, c'est-à-dire surtout faire le vide des pensées et faire le vide du jugement sur soi aussi. Hein. Donc, c'est avec la fameuse phrase, fais de toi rien afin que Dieu fasse de toi l'univers. Alors, faire le choix, ne pas être resté dans l'hésitation. Hein. Ça, c'est très, très important. Parce que ça, c'est vraiment, on sent le monde démoniaque là dans l'hésitation. Hein. Il essaye. La première fois, ça ne marche pas tout de suite, et puis il réessaye, hein, et il me dit, allez, non, c'est pas sûr que c'est sur la bonne décision. Et alors là, on est parti dans quelque chose qui nous emprisonne et qui ne nous libère absolument pas. Alors, s'accrocher à une idée fixe.
C'est un conseil, ça.
Oui, il ne donne que des conseils, il n'y a aucune règle. Hein.
Parce que les conseils à avoir des idées fixes qui sont pas bonnes.
Mais que
j'ai un mantra, oui.
C'est
plutôt un mantra, s'accrocher à une
prière. Oui, s'accrocher à une idée fixe. Oui, à une idée fixe, c'est ça. Oui. C'est au niveau de la prière, ou un mot, ou un verset de psaume, par exemple. Ça, c'est tout de suite. Voilà. Oui, bien sûr, oui, une bonne. Oui, parce qu'on se fixe souvent sur des idées qui nous fixe, quoi, hein, qui nous bloque. Alors, donc, s'accrocher à une idée fixe, et rien ne m'est dû. Et rien ne m'est dû. Voilà. Alors, les besoins de l'homme. Attendez, je ne me trompe pas de page. Hein. Les besoins de l'homme. Il en va de notre corps. Ah, pardon. Qui a besoin de manger et de respirer comme de notre vie intérieure. Notre vie intérieure est alimentée par nos deux poumons spirituels, qui est la prière nourriture et la prière respiration. Comme vous le savez, l'homme est composé de trois éléments, l'esprit, pneuma, l'âme, la psyché, et le corps, soma. Mais je vais revenir vraiment à un texte de deux pages de Monseigneur Jean que je vais vous lire au niveau justement de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que moi j'ai mis des années pour comprendre ça et c'est vraiment la base de l'anthropologie, de ce que nous sommes en fait. Nous sommes créés comme ça, donc avec l'esprit, l'âme et le corps. Donc je veux en parler mais j'y reviendrai. L'esprit, Dieu est l'unique nourriture de notre esprit. Donc ça c'est très très important, il n'y en a pas d'autres. On en utilise d'autres, mais il n'y en a pas d'autres. Si notre esprit veut être bien nourri, il n'y a que Dieu qui peut le nourrir. Donc vous imaginez déjà que l'esprit c'est quelque chose de très objectif. Quand il dit j'ai tué, ou j'ai pas, ok, c'est pas grave. C'est, voilà, quand on parle, quand on dit ce qui est, on le dit de façon la plus objective possible, sans mettre l'âme en activité, voilà. C'est très très important ça. La pointe divine de l'esprit plonge en Dieu. Et alors pour moi cette phrase est très importante. Seul le divin nourrit le divin. Il n'y a rien d'autre qui nourrit le divin si ce n'est le divin. Il insiste beaucoup là-dessus.
Donc l'esprit n'est vraiment pas le mental.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pardon?
La pointe divine de l'âme.
Attends, plonge en Dieu. Oui, c'est ça. La pointe divine de l'esprit plonge en Dieu. Bon, prenons l'exemple de la vie du Christ. Il nourrissait son corps par les aliments, son âme par l'amitié. Bien sûr que chaque élément est important, l'esprit, l'âme et le corps. La contemplation des fleurs, etc., ça c'était son âme. Et par la prière, pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que le Christ priait, quoi? Alors, non pas par besoin de demander quoi que ce soit, en principe, il savait ce qu'il y avait. Il connaissait, à mon avis, déjà un peu la réponse. Non pas besoin de demander quoi que ce soit à son Père, lui qui savait tout, il alimentait son esprit. Même lui, s'il voulait un... Voilà. S'il n'avait pas prié, son esprit humain eût été imparfait. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est vrai que c'est une question très fondamentale. Qu'est-ce qui fait que le Christ priait, quoi? Donc, vraiment, il nous montre que nous avons besoin de nourrir notre esprit par l'esprit avec un grand E. Mais je vais revenir là-dessus. Hein? Je vais revenir sur l'esprit, l'âme. Alors, l'âme, elle est composée des rapports avec les êtres. L'amitié, la culture, les arts. Il est bon de lui imposer un régime psychique. En effet, si l'âme commence à se prêter l'oreille, que ce soit en ses vertus ou en ses vices, automatiquement, elle bavardera avec elle-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît. Hein? Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais moi, en tout cas, si je suis sûre d'une chose, c'est d'avoir une âme. Hein? Un corps aussi, mais vraiment, voilà, bavarder avec soi-même. Ça, c'est quelque chose qui prend une ampleur par moment extraordinaire. Alors, le corps, celui-ci, est le lien avec le cosmos. La nourriture du corps est la communion, le lien avec l'univers. C'est la messe naturelle. L'Église nous dit, ne priez pas comme les hypocrites et les pharisiens, en étalant de grands discours et dans le même temps, priez sans cesse. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a très fort attiré dans l'orthodoxie, c'est le paradoxe, c'est l'antinomie. On vous dit quelque chose et puis on vous dit exactement le contraire. Et au lieu d'opposer les deux contraires, il faut mettre le petit mot « et ». C'est ça et ça. Voilà. Donc il ne faut pas prier pour allonger. D'ailleurs, il le dit, attendez, je vais revenir la messe naturelle. Oui. Ne priez pas comme les pharisiens en étalant de grands discours. C'est vrai. Et en même temps, prier sans cesse. C'est pas évident de concilier. Alors, Monseigneur Jean nous dit, nous prolongeons les prières, non pour les allonger, mais pour attraper la prière efficace, c'est-à-dire la prière brève. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on n'est pas vraiment dans un état de prière et qu'on est dans la prière et tout ça, ça prend du temps, on répète, c'est pas de dire toujours le même mot, hein, c'est de répéter les choses, de dire, moi je vais encore ajouter ça, peut-être qu'il comprendra mieux, que je serai mieux aimée. Donc, on allonge les prières pour arriver à la prière brève. Et d'ailleurs, la prière brève amène au silence, parce que pour lui, la vraie prière, c'est évidemment être dans le silence. Mais ça, pour y arriver, c'est pas encore demain. Toutes les prières doivent conduire à la prière du silence. Voilà, il le dit bien. Le chemin est long. Alors, la prière est un invité. On nettoie l'intérieur en le vidant de tout ce qui nous encombre, c'est-à-dire les pensées, les soucis. On dresse la table et l'invité vient. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, hein, je frappe à ta porte et si tu m'ouvres, je rentrerai et je dînerai avec toi. Alors, la prière nourriture, elle est très différente de la prière respiration. Hein. L'homme ne se nourrit pas sans cesse. Il mange, il digère et enfin il assimile. Choisir donc une prière à des moments précis, la digérer et l'assimiler pour donner des résultats. Pour que cette prière nourriture nourrisse réellement, elle ne doit pas être que demande ou louange, mais aussi méditation. Elle peut durer 15 minutes comme 6 heures par jour. Oui. Revenons sur le mot méditation. Il signifie écouter attentivement. Enregistrer, être présent, c'est tout. Rien de plus. Son grand principe, la discipline des heures fixes. Hein, ça. Et dans les mêmes circonstances. C'est vrai que par exemple, méditation, on préconise de choisir toujours le même moment, dans la même pièce, etc. De se mettre en condition. Tout comme nous avons besoin d'un régime sain pour le corps, nous avons aussi besoin d'un régime sain pour l'esprit. Nous traversions des périodes de digestion où nous n'avons pas soif de Dieu. L'instinct nous guide dans le monde matériel déformé. Évidemment, la principale prière nourriture, c'est la liturgie. Hein? Ça, c'est la principale. Habituons-nous aux liturgies. Notre prière nourriture par excellence, et nous en serons affamés à nouveau. Donc, moins on vient, moins on a envie de venir. Plus on vient, plus on a envie de venir. Et c'est vrai. Oui. Donc, la liturgie, c'est vraiment un moment... Il insiste beaucoup pour dire qu'il y a des moments bien précis hein, dans la prière nourriture. Hein, ça n'enlève pas la prière respiration, qui elle est perpétuelle. Mais la prière nourriture se fait à des moments précis. Alors la prière respiration et la prière intérieure. Ces deux formes de prière découvrent l'essentiel de l'anthropologie humaine. Alors je dis qu'effectivement j'ai fait un exposé sur les chemins de l'homme, c'est ça. Et on a parlé principalement de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais ici, je vais y revenir. J'y reviens brièvement et voici ce que dit Monseigneur Jean. L'homme est composé, donc, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ça, je vais vous lire parce que il y en a beaucoup qui savent ce qui sera écrit, mais moi aussi, mais ça n'empêche que ça fait quand même du bien de le relire. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui peut le lire, s'il veut. Vous voulez quelqu'un de le lire? Oui. Bon. La prière respiration. La tragédie du péché originel consiste en ce que le monde s'est renversé. L'esprit devait se nourrir de Dieu et le respirer. L'âme se nourrir de l'esprit et le respirer. Le corps se nourrir de l'âme et la respirer. Et le cosmos se nourrir du corps humain et le respirer. Détourné de Dieu ayant renversé les valeurs, coupé le contact entre lui et le Créateur, ce qui est la première mort, ça je ne vais pas m'aventurer là-dedans, je n'ai pas encore très bien compris ça, peut-être que Marc ou Bernard pourront nous expliquer la première mort. Donc il dit que quand on a renversé le processus esprit-âme-corps, ça s'appelle la première mort. L'esprit humain a perdu la nourriture et la respiration. Vous devinez déjà que c'est pour cela que le Christ dit « Je suis votre nourriture ». Et que le Saint-Esprit est nommé « Esprit » avec un grand « bien sûr »,« pneuma »,« respiration »,« air »,« vent ». Ayant arrêté volontairement cette alimentation divine, donc volontairement, l'esprit humain a recherché une autre nourriture, une autre respiration et s'est tourné vers les plans psychiques, donnant ainsi naissance à nos civilisations. Donc, il faut savoir, d'après ce qu'il dit, que nos civilisations sont plutôt situées sur les plans psychiques. Nos civilisations sont un phénomène maladif, tout comme notre culture et notre art. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Résultat de l'esprit humain s'alimentant de choses inférieures à lui. Que désire-t-il en réalité dans l'amitié, dans l'art, la musique, la sociologie? Dieu. L'exigence de l'esprit est absolue. L'amour, l'amitié, l'art ne correspondent pas à sa nature. D'où l'insatisfaction et le drame des douleurs et des déséquilibres de l'homme. Il passe d'une illusion à l'autre, cette nourriture étant privée du sel divin. Le psychique, c'est-à-dire l'âme, déjà affaibli par le spirituel privé du sel divin, parce qu'alors l'esprit doit de toute façon se nourrir. Donc, comme il n'est pas nourri par le divin et qu'il est privé du sel divin, il va, on dit à ce moment-là, qu'il le suce et donc dépourvu de sa nourriture normale. Oui, à ce moment-là, il vient parasiter l'âme, puisque de toute façon, il a besoin d'une nourriture. Donc, le psychique, l'âme, déjà affaibli par le spirituel, qui le suce, le spirituel, est donc dépourvu de sa nourriture normale. L'esprit humain qui ne le nourrit plus, mais l'exploite. Le psychique, par conséquent, se tourne vers ce qui peut lui procurer un certain complément. Il se réfugie dans la matière et nous voyons alors cet étrange phénomène d'un monde complexe, psychique, accroché à des éléments qui le laissent affamer et engendre les passions. Les maladies apparaissent inévitablement. L'esprit, abreuvé de psychisme, procure l'angoisse. Comment l'âme mangeant le corps ne déclencherait-elle pas les maladies? Que dire alors du corps qui, au lieu d'être le soleil, le rayonnement, la nourriture du cosmos, se tourne vers le cosmos et l'use progressivement? Nous avons quand même des bons exemples là-dedans. La matière ne trouvant rien d'inférieur à elle pour se nourrir, s'anémie. Les portes de la destruction et de la mort s'ouvrent devant elle. La seule nourriture servie est le néant. C'est une photocopie. C'était dans le livre, d'ailleurs, mais je peux... Oui, ah ben il est, oui, 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 oui. Et ce que nous sommes aussi, parce que... Oui, oui, je ferai des photocopies, il n'y a pas de souci. La technique de la prière, attends, je suis... De toute façon, avant septembre, Attends. Tu sais, il n'a pas peut-être pas écrit ce livre comme ça, hein, il a écrit des notes et puis ça a été repris par... dans l'été, non, non, on ne parle pas de date. Ça, je ne pourrais pas te dire. Il a fait tant de choses. Oui. Oui, donc c'est très important, ça c'est... Pour moi, c'est fondamental et j'ai mis des années à comprendre ça, franchement. Et c'est ça qui fait que... Il donne un exemple que je vous avais donné. Par exemple, vous avez les jeunes, ils aiment des idoles, hein. Ils s'identifient aux idoles. En fait, ils font de leur idole un dieu. Donc c'est l'âme à ce moment-là qui prend le pas, si vous voulez. C'est l'âme qui idole un personnage quelconque. Et donc à ce moment-là, l'esprit, il n'est plus... l'esprit devient psychique, si vous voulez, parce que pour lui, c'est devenu son dieu. Et donc à ce moment-là, l'esprit, mais, comment il se nécrose quelque part. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il faut savoir que nous avons toujours, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance, la possibilité de nous tourner à l'instant. Vraiment, ça, il faut bien, bien se dire que rien n'est jamais foutu, rien n'est jamais désespéré. C'est vrai que, je le dis, mais je n'ai pas toujours vécu comme ça non plus. Hein. Mais c'est vrai que même quand on a des épreuves comme ça dures, on se rend compte avec le recul que finalement, ça nous a peut-être ouvert des portes. Mais il faut du recul. Et on n'a pas du recul au moment où on est dans une émotion, un accident, une maladie, tout ça. On est pris par le stress. C'est très, très difficile de s'apaiser à ce moment-là et de retourner vers son esprit. Attendez, parce que donc, ça c'est la prière respiration, le corps. Ah oui, alors ça, je n'ai plus besoin de lire parce que je crois que je l'ai ici. Alors, le remède, parce que je vous dis, il y a des remèdes, hein. Il n'y a pas que les remèdes homéopathiques, il y en a d'autres aussi. Remède, restaurer la prière et l'équilibre sera rétabli. Même si c'est très difficile. Donc, on peut commencer par un dialogue avec le divin. Le contact avec Dieu est la prière. L'esprit est au-delà du psychisme créé par Dieu pour Dieu seul. L'hygiène vitale pour l'esprit, c'est Dieu. Je remets de vous, seul le divin nourrit le divin. Cela veut dire que seule cette part divine en nous nourrit le divin. De transformer le monde, le but de la prière est de ramener l'homme à son équilibre premier. La prière respiration, notre liturgie intérieure, devrait tendre à devenir perpétuelle, permanente. Et j'ajoute évidemment, je dis bien devrait, hein, devrait. Ah oui, ça, c'est, je trouve, c'est très beau ce qu'il dit. Si votre Dieu est mesquin, votre prière intérieure est dangereuse. Et voilà, plaçons notre esprit face à une conception vaste de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Ça me fait penser à la phrase de Moïse, qui dit à Moïse, élargis ta tente. Voilà, ouvrir ce... Oui. Plus il sera immense, bon, large, plus votre prière perpétuelle portera des fruits savoureux. Le danger est de se pencher avec sollicitude sur son iniquité et sa non-réussite. Qu'est-ce qu'on passe comme temps? Non seulement on rate, mais en plus on passe encore du temps en se demandant comment c'est possible qu'on ait raté. Donc on passe énormément de temps et c'est vrai, hein, ça c'est... Et alors, ainsi, en se tournant vers cette sollicitude de la non-réussite, au lieu de cultiver l'amour de Dieu, on cultive son amour propre. Parce qu'il faut faire attention entre l'amour propre et l'amour de Dieu, c'est pas évident. Hein? Et de ça, l'amour propre, il en parle très très bien dans le livre sur le carême. Il en parle très très bien. Voilà, où est-ce qu'on en est là?
À moins quart.
Ben, c'est-à-dire qu'il me reste une moitié, mais je peux encore continuer un petit peu.
12h45, pause, tisane, promenade solitaire.
Je vais laisser le livre de Monseigneur Jean ici, si vous le voulez une fois le feuilleter. Je crois qu'il y en a dans la bibliothèque, je devrais voir. Il n'est plus réédité de toute façon. Hein. Voilà. La technique de la prière.
Moi, j'ai acheté à Bethany, je
ne
sais pas si
je l'ouvre
encore.
Ah, tu l'as acheté récemment?
Pas récemment, mais il y a quelques années.
Ah, moi aussi, je l'ai acheté là, oui, bien. Oui. Moi, il y a longtemps.
Je crois que Pascal en a encore quelques exemplaires. Oui. Que je lui ai demandé il y a 2 ans. Il a fouillé dans ses réserves et il en a retrouvé.
Oui.
Peut-être qu'il en a encore. Sinon, on peut le photocopier pour toute la paroisse.